Et bonsoir, bienvenue dans votre émission Catalyse sur Fréquence Mistral que vous écoutez sur 99.3 FM. Ce soir, je reçois Dewis Mira qui nous fait l'amitié de revenir, puisqu'on l'a déjà reçu dans cette émission. Et qu'est-ce que tu viens nous présenter alors cette fois-ci ?
Eh bien, cette fois, c'est la sortie de l'album, du second album, nommé Ars Moriendi, et qui sort donc demain, donc on est à point nommé.
Alors, avant de parler de cet album, un petit mot sur le précédent.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'album qui est sorti, il est sorti il y a déjà un petit...
En 2018.
Ouais.
Donc le premier disque se nommait It's Never Too Late. Donc c'est un peu trompeur parce que bon, en réalité c'est un album en français, mais il y avait comme ça quelques petites phrases jetées en anglais par-ci par-là, histoire de, je pense que je voulais rendre un peu la chose universelle, voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait en dire, donc pour ce premier disque, alors c'était un disque, j'avais déjà mis le paquet. J'avais été pas mal entouré pour créer ce disque. J'avais fait appel à beaucoup de musiciens. On tournait beaucoup à l'époque en plus, donc j'avais fait faire le mixage. Alors j'avais participé tout le long. J'étais là tout le long du processus, mais j'avais fait les prises de son moi-même. Mais par contre, j'avais fait faire le mixage et le mastering. Et c'était un album qui esquissait pas mal mon style, je pense. Alors on est moins, là j'ai vraiment approfondi, vraiment trouvé ma voix avec le second album qui arrive, mais cependant ça s'esquissait pas mal, mais avec probablement quelque chose d'un petit peu plus large sur le premier, c'est-à-dire qu'on était dans la folk, on était dans la chanson française, donc avec des paroles déjà un petit peu travaillées, etc. Mais on avait pas mal d'influences, folk rock, folk pop, voilà, etc. On était un peu moins sombre, un peu moins philosophique, un peu plus pop sur le premier disque. Premier disque que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, j'ai pas de... Voilà, simplement j'essaie d'esquisser un peu l'évolution, la différence.
Donc ce premier album, tu le qualifierais de folk pop, folk rock?
Ouais, okay. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Alors c'est toujours difficile, j'ai du mal à me mettre dans des cases parce que, bon, pour moi ce que je fais c'est du Dewis Mira, quoi, hein, voilà. Je pense que c'est le cas vraiment. Peut-être justement davantage encore avec le nouvel opus, je pense qu'il est assez difficile de... Voilà, objectivement, ce serait de la folk anglo-saxonne avec des paroles en français, ce qui est assez inédit. Déjà de la folk française, il y en a assez peu, et souvent le peu qu'on peut trouver, ce sera plutôt dans le style folk américaine, c'est-à-dire un peu plus brut, un peu moins travaillé, on va dire. Voilà. C'est pas péjoratif, hein. On va un peu moins chercher, c'est un peu moins sophistiqué. Voilà, la folk anglo-saxonne est beaucoup plus profonde, avec des morceaux plus longs, beaucoup plus de passages, de travail sur la mélodie, ce genre de choses. Les voix sont souvent assez différentes aussi. Voilà, on a des voix chez les Anglais qui sont beaucoup plus... là encore, c'est un peu moins rustique, quoi. C'est un peu plus travaillé, avec des envolées, avec des chœurs, avec beaucoup d'arrangements de cordes, etc. C'est un peu moins le côté Bob Dylan où on prend la guitare sur l'épaule, on se met sur le trottoir et puis on dit ce qu'on a à dire, hein, comme ça vient, quoi.
Voilà. Et toi, du coup, sur ce premier album, qu'est-ce que tu avais à dire ?
Alors, eh ben, il faut que je m'y replonge parce que ça remonte à 2018. Sur ce premier disque, bah c'était assez varié. Alors on abordait déjà un peu les thèmes existentiels, la mort, etc., mais de façon beaucoup plus distante. Voilà, on y abordait l'amour avec Amoureux, qui est un titre qui emprunte pas mal au niveau des arrangements à la musique classique. Et qui a une structure très particulière avec où on enchaînait des parties en 4/4 avec des parties en ternaire. Donc c'est assez particulier. On a une intro en ternaire, puis on revient. Et ensuite, on a des passages instrumentaux où ça repart en ternaire, on revient encore. Et ça crée une espèce de danse comme ça, un peu, qui allait très bien avec le sentiment amoureux, je trouvais. D'un seul coup, on changeait de tempo par rapport à la vie quotidienne. Par exemple, on avait le titre « Retraité », qui essayait de... un titre que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui a pas mal plu, et qui essayait un peu de sortir de ce... En tout cas, à l'époque, aujourd'hui, ça a quand même un peu changé, mais à l'époque, on avait beaucoup ce discours du « enfin la retraite »,« je vais pouvoir profiter »,« enfin la belle vie », etc. Donc... ayant moi-même travaillé longtemps de façon très dure dans le bâtiment, etc., dans le froid ou en pleine canicule, ou à porter du bois toute la journée en respirant des produits toxiques, etc. Et puis de par ma vie qui n'a pas toujours été facile, j'ai pu observer des versions bien différentes de ça. Et donc je voulais rétablir un peu, faire justice à ceux pour qui la retraite n'est pas si rose. On avait Dans le néant qui esquissait déjà à l'époque, en quelque sorte, les problèmes écologiques, voilà, qu'on peut ressentir de façon bien plus directe aujourd'hui. Donc c'était une projection dans le néant, voilà. J'avais eu comme ça une espèce de reflux, une espèce de rêve, mais très très concret, où je me suis, comme si je me réveillais et j'étais le seul survivant dans cette terre dévastée.
Ah, c'est un film, ça, non ?
Voilà, hein, c'est un peu, c'est tout à fait ça. En plus, je suis fan de cinéma, alors probablement que... Mais je ne me suis pas du tout inspiré d'un film en particulier, mais j'ai eu ce... je sais pas. Ça m'est venu, comme ça. Il y avait ces restes d'usine, avec ces gros silos, et la nature qui reprenait ses droits, le goudron qui semblait imploser, etc. Et donc j'étais le narrateur solitaire au milieu des décombres.
Okay. Donc là, sur les trois titres que tu nous décris, si je comprends bien, il y en a deux qui sont plus ancrés sur le quotidien, quasiment, sur la vie, quoi. Et le deuxième, comme tu dis, qui est esquissé autre chose, qui se projetait plus sur... par rapport peut-être à des peurs ou des choses liées à l'avenir, en fait.
Pas des peurs, mais je pense que le rôle des artistes aussi, c'est d'être un peu d'éveiller un peu les consciences, etc. Moi, je crois beaucoup à tout ça, en fait. Je suis pas du tout dans le... J'ai pas un besoin de me montrer ou de... D'ailleurs, être très connu, c'est pas un truc qui... Ça m'a jamais trop attiré, quoi. En revanche, toucher certaines personnes de façon authentique, apporter quelque chose, participer de quelque chose, échanger sur tout un tas de sujets beaucoup plus profonds que les mensonges et les banalités qu'on essaie de nous servir au quotidien, ça m'intéresse beaucoup, par contre, voilà. Donc j'ai toujours essayé d'avoir ça, quoi. Même lorsque je vais faire une création, une œuvre, un titre qui va parler de choses qui peuvent paraître plus banales comme les sentiments, l'amour ou le côté plus charnel ou ce genre de choses, même là je vais essayer d'attraper certains sentiments, certaines émotions qui sont un peu en décalage du truc banal, quoi. Voilà. Donc là, on pourra en parler après sur le nouveau disque. Il y a un titre qui expose très bien cet état de fait. Et donc, pour revenir au premier album, It's Never Too Late, on pourrait parler également de Comme une nuit. Alors, Comme une nuit, c'est un titre qui avait jailli de moi au retour des funérailles de ma tante. Voilà, donc c'est vraiment ce sentiment de la perte des êtres aimés. Donc, dans le vif. Dès le retour des funérailles, ça a coulé, j'ai rempli la page, j'ai pris la guitare. Voilà, je pense que c'est un titre assez particulier parce que j'ai essayé de faire une mélodie qui soit un peu en contre-pied des paroles, donc les paroles sont assez profondes, prenantes, assez tristes, hein. Et la mélodie est un petit peu sautillante, un peu dansante, comme ça, légèrement. Et on finit sur un grand final comme ça qui part crescendo, qui est assez long et qui lui est carrément joyeux avec une espèce d'envolée où on a mis de la mandoline dessus, etc. pour partir un peu vers le côté New Orleans où là-bas, on voit la mort et on célèbre les funérailles de façon complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire par chez nous. Mmh. Où c'est plutôt quelque chose de joyeux, c'est le départ de l'âme vers quelque chose de plus grand. Donc on célèbre ça plutôt que de le pleurer. Donc je voulais ramener un peu de beauté et d'optimisme à la fin de ce morceau avec cette envolée. Il y avait un titre sur l'artiste, justement, on parlait de folk anglo-saxonne, Nick Drake, qui est une source d'inspiration pour moi énorme, qui fait vraiment partie des artistes qui me touche beaucoup, et puis qui est pas tellement connu en France, hein, malheureusement. À part, on a pu l'entendre un peu dans quelques films ou quelques pubs, mais enfin, les gens ont un peu du mal à... Si on dit Nick Drake à quelqu'un, en général, ça lui parlera pas, à part vraiment les musiciens qui s'intéressent un peu. Donc l'album s'ouvrait là-dessus, sur un titre qui s'appelait Nick Drake. Et il y a cette fameuse photo sur son premier disque, Five Leaves Left, où on le voit à la fenêtre de sa chambre, donc là encore, en observateur du monde, un observateur solitaire, enfermé, mais qui observe le monde. Et donc mes paroles s'inspirent de ça. Voilà. Qu'est-ce qui pouvait bien observer par cette fenêtre, et qu'est-ce qu'il pouvait ressentir seul avec sa guitare acoustique devant son enregistreur à bande. Donc là, j'étais parti de ce... Donc en Angleterre, avec la pluie. Voilà, j'aime beaucoup les images comme ça. Ça crée un tableau, et ça fait une bonne base de départ en général pour créer une œuvre. Alors ça peut être aussi l'actualité, hein, sur le nouveau disque, il y aura aussi un titre assez noir, assez profond sur la période Covid. Donc ça peut être aussi ça, mais voilà.
Okay. Et par rapport aux différents instruments, parce que là par exemple tu as parlé de la mandoline, sur le premier album, il y avait différents instruments qui sont rentrés... dans tes compositions ou...
Ah oui, c'est assez riche. De toute façon, les deux disques sont assez riches, mais la grosse différence, c'est que sur le premier disque, j'ai fait appel à plusieurs musiciens. Mm-hmm. Sur le nouvel album, c'est moi qui ai intégralement tout joué, tout fait, tout produit, etc. Okay. Donc là, la grosse différence est là. Donc oui, sur le premier disque, qu'est-ce qu'on avait ? On avait de la batterie, de la basse, guitare acoustique, guitare électrique, violon, violoncelle, alto... contrebasse, clavier, chœur, voilà.
Il y avait du monde.
Il y avait du monde, ouais. Okay. Ouais. Donc j'étais allé voir Thomas Rebar, que je salue si jamais il était à l'écoute, qui tient un studio à Manosque, studio Movida. Et ça s'était très bien passé. Je pense qu'on vient d'univers très différents. Lui, il est beaucoup plus dans tout ce qui est métal, hard rock, etc. Mais cependant, le côté un peu sombre, un peu poétique, etc. de ce que je fais, voilà, je pense qu'il comprenait ça. Et puis, la chance, il était aussi violoncelliste. Et tu le connais ?
Je voudrais bien l'inviter. Ah ben, mais je suis un petit peu...
Je pourrais te passer le contact si tu veux. Il est très très intéressant. Il travaille avec beaucoup de musiciens, parce qu'il fait aussi de la vidéo pour faire les clips, etc. Il fait les mixages. Et donc il avait joué les violoncelles. Il connaissait un bon violoniste qui faisait violon alto. Et donc c'est lui qui m'a mis en contact avec. Du coup on avait pu le faire venir. Et puis moi j'avais mon groupe, hein, puisque je tournais beaucoup à l'époque, autant en reprise que pour mes compos. À l'époque on tournait à 80 concerts par an, quelque chose comme ça. Okay. Et donc j'avais déjà mon batteur, mon bassiste qui était là. Donc voilà, tout ce petit monde a joué son rôle à l'époque. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a amené à cet univers de la folk?
Ça a pris longtemps, parce qu'après il faut dire aussi ça fait longtemps que je fais de la musique et que je suis dans la musique. J'ai eu mon premier micro, j'avais 5 ans. En fait, il y avait un micro déjà à la maison qui traînait, pour être plus précis, et j'ai accaparé ce micro. Je pense que c'était mon père qui aimait bien chanter, mais comme ça pour lui, quoi. Et puis alors on avait le tourne-disque et puis je chantais mais des trucs de minot, tu vois, des Bioman à l'époque.
Ah, la classe,
quoi. Voilà, j'étais au milieu du salon, j'étais à fond. Et je voulais être chanteur déjà, hein. C'était vraiment mon... J'étais à fond, et beaucoup de chansons françaises, en fait. Ma mère écoutait beaucoup de chansons françaises. Donc j'étais beaucoup dans Francis Cabrel, Michel Sardou, etc. Ensuite, bon, plus ou moins, je passe sur les détails, mais on va dire que mes parents m'ont plus ou moins abandonné. J'ai fini en pension, donc sous tutelle de l'État. Et dans la deuxième pension dans laquelle j'ai été, il y avait un musicien qui était éducateur, un excellent musicien, un bassiste de blues, qui faisait de la musique depuis très longtemps. Et puis on s'est mis à créer des ateliers musique tous les mercredis, avec plusieurs instruments, des profs extérieurs qui parfois venaient donner des cours, etc. Et donc là, j'ai vraiment approfondi la chose, je me suis mis à fond et j'ai commencé à écrire des paroles et à chanter quasiment tous les jours pour le mercredi pouvoir jouer avec les musiciens, etc. Donc je fais rapide, hein, parce que sinon ça fait 30 ans maintenant que je fais de la musique. Alors après, j'ai eu mon premier groupe, j'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. C'était une grosse formation, on était 7 musiciens. Donc c'est très formateur parce que moi j'avais 15 ans et le plus âgé du groupe il avait 60 ans.
Okay, donc
il y avait tous les niveaux, tous les âges, on jouait plus ou moins de tout, blues, rock, variété, c'était très 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 varié. Donc c'était assez formateur, on faisait pas mal de petits concerts comme ça, dans les villages, dans les bars, dans les MJC, des choses comme ça. Et puis après j'ai enchaîné, j'ai eu pas mal de petits groupes, mais ça restait très amateur, parce que moi j'avais mon travail à côté, etc. Puisque malheureusement j'avais voulu faire ce métier, mais la vie a fait que je n'ai pas pu. Voilà, mon père m'avait récupéré sur le tard, juste pendant 2 ans, il n'a pas du tout voulu que je fasse la musique, pour lui c'était pas un métier. Donc je suis parti dans le bâtiment, et puis ben, après la vie, hein, il fallait payer les factures... Hein. Puis je me suis laissé embobiner par ce système capitaliste destructeur. J'y croyais vraiment, en fait. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un, quand je mets dans quelque chose, je suis très passionné. Donc même si à la base, c'est pas ce que je voulais faire, si je le faisais, je me suis dit qu'il fallait que je devienne le meilleur, et que je fasse ça bien, et que je m'y intéresse. Et que... Donc j'étais le genre de gars à travailler encore en rentrant du boulot, et à lire des fiches techniques, et à apprendre encore des choses, etc. Enfin, voilà. Donc j'ai créé mon entreprise très tôt. J'avais 18 ans quand j'ai créé ma première boîte. Donc en somme, je me suis tué au travail en 20 ans, quoi. Donc j'ai eu le déclic, j'ai dit, bon, si tu continues, tu vas mourir, là. Il faut arrêter, il faut revenir à ta passion, quoi, hein, voilà, à la musique. Donc ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Donc maintenant, ça fait pas mal d'années, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça doit faire quasiment 10 ans que je suis professionnel, hein, à temps plein dans la musique. Et je regarde pas du tout, même si c'est dur, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est-à-dire que la musique fait partie intégrante de ce système qui est bien pourri, et donc le capitalisme a mis main basse sur tout ça, la façon de consommer de la plupart des gens va avec, donc c'est devenu un produit de consommation. Donc heureusement qu'il y a les médias comme Fréquence Mistral, les personnes comme toi qui sont passionnées, qui participent à tout ça, déjà pour l'échange humain, et puis pour diffuser le message. Voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi l'art c'est aussi ça, quoi. C'est aussi passer des messages qui sont importants et qui ne passent évidemment pas du tout sur les chaînes particulièrement nationales, hein, que ce soit des radios, des télés, des journaux, etc. Sur les gros médias détenus par une petite caste qui dirige le monde. Hein. Donc, heureusement que vous êtes là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se développe de plus en plus. Il y a vraiment tout un circuit, que ce soit au niveau artistique ou que ce soit au niveau média plus classique. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se font en ce moment. Donc, c'est assez passionnant. Et j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille un petit peu. Je crois que tous les abus de la période Covid ont d'une certaine manière porté leurs fruits également dans le bon sens du terme, ont réveillé un petit peu les consciences. Donc il y a quand même des choses qui se passent. Alors attention, hein, je suis pas du tout dans l'optimisme béat qui là justement au contraire rejoindrait les plans du discours normé. Pas du tout. Je ne crois pas du tout en ça. Je crois qu'il faut justement voir et accepter la réalité pour pouvoir construire quelque chose, et non pas nier la réalité pour essayer soi-disant d'être heureux. Heureux d'ailleurs qui est un mot, qui est un concept, finalement. C'est comme amour, c'est des concepts qui ont été créés à un moment donné par certains humains, faut pas oublier ça, quoi. Donc à quoi est-ce que ça se rattache? Le problème, c'est que si on part sur un concept, tous ces sentiments-là sont des choses qui doivent être singulières, quoi. Ça ne peut pas être normalisé. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ces mots comme bonheur, à bonheur, je préfère le sentiment de joie. Quelque chose de très différent qui en réalité se rattache davantage à la conscience qu'à quelque chose de fabriqué. À l'amour, je préférerais parler de sentiments, de choses comme ça, de ressentis. Voilà, mais bon, après tout ça est très personnel. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu, en tout cas déjà le tour du premier disque et de ma vision globale. Voilà, on a un peu esquissé le chemin aussi.
Ben on va peut-être justement en profiter pour écouter des titres de ton premier album avant de parler du second qui sort donc demain, le 20 février.
Oui, tout à fait.
Il sortira sur les plateformes, il faut
de partout.
Contacter.
De partout, alors évidemment... tout contact est bienvenu, hein, puisque c'est vraiment la base. Hein. Je conseille fortement de se procurer le support physique, le CD, avec son superbe livret, etc. Déjà le son est bien meilleur, et puis on a ce contact avec l'artiste et avec l'objet. Donc je conseille vraiment. Donc ça on peut le trouver sur mon site, hein, devismira.fr, DEWISMIRA, voilà. Mais après, il va être de partout, hein, voilà, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, YouTube, etc. Tous les réseaux sociaux aussi, on peut me trouver
okay.
Sans problème.
Donc on va écouter trois titres de It's Never Too Late, donc ton premier album de 2018, avec alors j'ai choisi en fonction des titres que tu nous as un peu décrits. Mm-hmm. Donc Nick Drake, pour justement voir un petit peu le ce qui t'a attiré aussi sur cette fibre folk. Mm-hmm. Amoureux aussi, pour entendre un petit peu ces changements de rythme liés au sentiment. Mmh. Et puis dans le néant, pour aborder plus la veine du second album.
Si tu les mets dans cet ordre, en plus, c'est plutôt pas mal.
Allez, et ben alors, on est parti.
Thank you. qui m'émerveille. Le tour de grâce à leurs oreilles. Quelques notes, mais ouvrent la planète. Amoureux.
Et nous voilà de retour sur Fréquence Mistral Digne dans l'émission Catalyse avec Davis Mira pour la sortie du second album, comment s'appelle-t-il ?
Ars Moriendi.
Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le latin, j'en ai fait, c'était il y a longtemps, je connais la traduction littérale, mais comment tu l'interprètes, toi ?
Alors, l'Ars... Moriendi, c'est l'art de mourir, en fait. Donc c'est un courant qui a pris naissance au XVe siècle. On va dire qu'il a été très populaire entre le XVe et le XVIIe siècle, mais on peut considérer que ça a continué jusqu'au XIXe. Donc ça a quand même pris une ampleur assez importante. Donc à la base, c'était un mouvement religieux, hein, de la religion catholique. Et donc, Ars Moriendi, il y avait des livres, des ouvrages qui sont sortis là-dessus, et il y avait tout un art qui s'est développé autour de ça, et qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que là on est aux antipodes de la pensée moderne, hein, d'aujourd'hui, où on est dans cette espèce de futilité, de matérialisme permanent. Donc là, on va chercher un petit peu la profondeur de l'âme humaine. Comment mourir dignement, comment appréhender la mort, qu'est-ce que la mort, que peut-il y avoir après, comment préparer son âme à l'éventuel au-delà. Donc j'ai trouvé ce sujet absolument profond. Et donc ça a totalement résonné, c'est-à-dire que je ne suis pas parti de ce thème de base pour ensuite créer les chansons. Mm-hmm. C'est-à-dire que vraiment, mon œuvre pour ce disque tournait tellement autour de ces sujets existentiels et pas mal autour de la mort, que d'un seul coup, ça a été la révélation lorsque j'ai découvert, en lisant un livre, si je me souviens bien, je pense que c'était Le bonheur d'être triste de Suzanne Cain, que je vous conseille d'ailleurs. Donc là encore, on est aux antipodes de la pensée d'aujourd'hui, hein, Le bonheur d'être triste. Pourquoi est-ce qu'écouter une chanson triste peut nous faire du bien? Pourquoi est-ce que regarder un drame peut faire qu'on se sente compris, etc. Voilà, toutes ces questions sont abordées dans ce bouquin. Et elle aborde César Smoriendi, dont j'avais déjà vaguement entendu parler il y a longtemps, mais que je n'avais plus du tout à l'esprit. Et je suis allé un peu fouiner, et puis j'ai été vraiment... ces gravures, ces peintures, ces textes qui tournaient autour de ça étaient d'une profondeur... C'est vraiment, c'est beau, c'est profond, je pense que ça aide à vivre, à comprendre le lien étroit qu'il y a entre vivre et mourir. Et donc là, avec vivre et mourir chaque jour, ça a été une sorte de résonance comme ça. Je dis, c'est fou que je tombe sur ça, quoi.
Ça a fait écho à ce que tu étais en train de...
Ah, complètement, ouais, complètement. Une sorte de... Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié.
Synchronicité.
Voilà, une sorte de synchronicité. Bravo, très bien. Une sorte de synchronicité qui s'est produite. Et j'ai dit, voilà, c'est exactement ça, quoi. D'un seul coup, j'ai même eu les visuels qui me venaient et tout. J'ai dit, voilà, le thème, le fil central du disque, c'est l'Ars Moriendi.
Et là, tu nous parlais de l'objet physique. Donc, tu mets à disposition, tu vends le CD, l'objet. Mmh. Comment tu le présenterais? Parce que moi, je sais que je l'ai reçu par la poste.
Oui.
Comment tu le présenterais, du coup?
Donc, tu as pu voir que déjà dans l'envoi, j'essaie de faire en sorte que l'expérience commence déjà dès réception. Voilà. Qu'on ait un peu cet effet presque grimoire avec cette enveloppe japonaise noire où il faut dénouer, voilà, avec le cachet de cire, n'est-ce pas, avec la corde qu'il faut dénouer, et puis on ouvre, on a ce disque on a cette pochette qui est très sombre, où je suis comme absorbé par le néant quelque part, avec simplement une lueur comme ça qui, voilà, comme si j'étais en train d'être absorbé par le tunnel, comme ça, voilà. Mais on a encore une lueur qui... et donc je suis en transformation entre la vie et la mort sur la pochette. Mmh. On commence à voir transparaître le squelette, très légèrement, qu'on peut voir apparaître totalement à l'arrière, du coup, après, de la pochette. Donc il y a tout ce cheminement, c'est-à-dire, quand je dis que j'ai tout fait sur ce disque, c'est-à-dire, là encore, hein, j'ai fait les visuels, les photos, je réalise les clips, j'ai joué absolument tous les instruments, j'ai tout composé, mixé, masterisé, c'est pour ça que ça m'a pris 6 années de travail. Voilà, j'ai vraiment voulu faire une œuvre la plus aboutie et la plus ressemblante possible à ce que je voulais donner. Je suis entièrement satisfait, ce qui est très difficile pour un artiste. C'est très difficile d'arriver à se dire ça, voilà. C'est-à-dire que quelque part, une œuvre pour les, je parle des artistes, hein. Je parle pas des animateurs, de ceux qui font ça pour s'amuser. Je parle de ceux qui doivent créer, parce que s'ils ne créent pas, ils meurent. Pour moi c'est ça un artiste, quelque part. C'est, on a des choses à dire, et c'est plus fort que nous, c'est qu'on doit le faire. On doit peindre, on doit sculpter, on doit écrire, on doit chanter, on doit jouer, on doit... Voilà. C'est presque un appel supérieur. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Hein. Mm-hmm. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. D'ailleurs, c'est vraiment ça. C'est ça que quand les gens souvent... Ah, tu es musicien. Oui, si vous voulez. Mais moi, mon métier et ma passion, c'est surtout de créer, quoi. Voilà, beaucoup plus que de jouer en soi. Je veux dire, j'ai jamais eu pour objectif d'être un virtuose de la guitare ou du chant ou de... C'est pas tellement ça, en fait. Mais, d'une certaine manière, on peut le devenir de cette façon-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a une création en tête et qu'on veut absolument arriver à ce résultat, eh bien, pour arriver à ce résultat, il va falloir beaucoup travailler. Voilà, parce qu'on veut exactement quelque chose de précis. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, sur ce disque, j'ai joué vraiment, par exemple, j'ai appris à jouer du Boran, qui est une percussion irlandaise, et que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'y mettre. Bon, ben là,
c'était l'occasion avec l'objectif.
Voilà, tu vois, c'était. Oui, il n'y a pas meilleure motivation, en fait. Hein. C'est donc une chimie, j'ai adoré ça, quoi. C'est un instrument. C'est l'archétype de l'antipode de la société moderne. C'est-à-dire, on a un cadre en bois, on a une peau de bête, on a un bâton, terminé.
Et c'est parti.
Et en fait, avec ça, tu te rends compte que tu peux faire énormément de choses. Tu peux énormément moduler son par l'accordage, par l'humidité. Alors l'humidité de l'air joue énormément sur la tension de la peau, donc sur l'accordage et donc sur le son. Hein. C'est pour ça qu'en Irlande, c'est une chose, ça va sonner très bas, la peau est détendue avec l'humidité. Ici, ça sonne pas du tout. Donc mon astuce, c'est d'humidifier la peau. Sauf qu'il faut le faire régulièrement, parce qu'autrement, ça s'évapore. Le son change même au fur et à mesure du morceau, donc faut vraiment gérer le truc intelligemment. Et puis après, avec une main, tu as le tips, on appelle ça le tips. Hein. Donc c'est un bâton avec deux extrémités en forme de petite boule. Et donc on va jouer avec un mouvement de va-et-vient en fait sur la peau. Et on a vraiment ce tout, 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 tu vois, c'est vraiment ce côté très tribal, très. Et avec l'autre main, on mate à l'arrière de la peau en fait. Donc on peut laisser résonner certaines notes et en étouffer d'autres. Donc c'est très riche en fait. C'est-à-dire qu'avec ce simple bâton et cette peau, on peut avoir une palette de sonorités, etc., qui sont vraiment, vraiment très 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 riches. Donc là, en l'occurrence, j'ai voulu quelque chose de tribal, mais qui joue beaucoup dans le bas. Voilà, pour vraiment avoir ce
quelque chose qui prend au corps.
Ouais, quelque chose qui gronde et qui on ressent autant la vibration que le son et qui prenne aux tripes, ouais, effectivement. On a vraiment cet appel. Donc là, du coup, on va rentrer un peu dans le disque. Si par exemple, on prend le signal, qui est le deuxième morceau de l'album. L'idée de départ est venue. J'étais en haut d'une falaise en fait, mais vraiment, tu vois, la falaise abrupte. Vraiment les mers du Nord, tu vois, avec la tempête, le vent, le ciel chargé. Et donc, je sais pas si tu as déjà fait ce genre d'expérience, mais lorsque les vagues viennent se fracasser sur la roche, tu sens la vibration, en fait. Et donc, je voulais avoir ça. Et donc là, le Boran, pour ça, c'était parfait. On a vraiment ce... Tu vois, qui est vraiment très bas, donc on sent... Alors évidemment... S'il vous plaît, essayez de ne pas écouter que sur vos smartphones. Puisqu'évidemment, avec un smartphone, tout le bas du spectre, c'est-à-dire l'âme de la musique, vous ne la ressentez pas. Donc je vous invite vraiment à améliorer vos systèmes d'écoute, parce qu'aujourd'hui, ça c'est terrible, et à avoir à minima un très bon casque, et au mieux des systèmes d'enceinte qui descendent bien dans le bas et qui soient assez neutres. Voilà, donc je ferme la petite parenthèse audiophile. Et donc on ressent ce bas, donc on est vraiment raccord, tu vois, on est vraiment raccord avec l'idée de départ. Donc j'étais sur cette falaise et un reflux ancestral sortait des roches et venait me parler. Donc tu vois, le froid, on en a les embruns, on est trempé, on a froid, puis on a le vent qui tourne, et d'un seul coup, on a comme ça, comme un message très ancien, qui vient un petit peu nous parler, nous interroger sur notre rapport à la vie. Voilà, que sommes-nous en train de devenir, que sommes-nous en train de faire de nos âmes, de la terre, de l'ensemble du vivant quel est le rapport qu'on a aujourd'hui à ce que nous sommes réellement, voilà. Voilà, parce que nous en sommes finalement réduits à être davantage des choses que des âmes, à être davantage au service d'un système matérialiste, capitaliste, et qui nous a totalement éloignés de ce que nous sommes, alors d'après moi. Donc voilà. Le morceau commence, reflux viking sur les falaises, voilà, ça commence comme ça. Près d'ici, un ange s'endort, terre de magie, ces vagues puissent-elles emporter les années passées. Donc voilà, on commence vraiment, c'est très très philosophique. De toute façon, c'est un disque très philosophique, très existentiel, très poétique. Donc surtout, faut pas être effrayé par oulala, Ars Moriendi, ça parle de la mort, en plus là, la pochette est sombre, etc. Je veux dire, à ce moment-là, évitons à tout prix, et puis c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe malheureusement, et évitons Rimbaud, évitons Verlaine, évitons la philosophie et la sociologie qui parlent de choses concrètes et réelles. Je sais pas, la société du spectacle, Guy Debord, voilà, qu'on ferait bien de relire un petit peu, qui est tellement d'actualité alors que ça a été écrit dans les années 80, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il faut replonger un peu dans tout ça. Lisez Platon, voilà, oubliez la télé, voilà, éteignez la télé, lisez Platon, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif. Écoutez Ars Moriendi de Davis Mira, si le cœur vous en dit. Voilà, sans avoir la prétention d'être au niveau de telle création que Platon, mais je pense que je suis vraiment allé chercher quelque chose, voilà, qui peut toucher les cordes sensibles des personnes qui s'intéressent aux choses qui vont un peu plus en profondeur, quoi.
À la vie, au final.
Oui, à la vraie vie, voilà. C'est-à-dire, d'un seul coup, on arrête d'être des machines de production du système. On arrête de se dire que les choses qu'on a à faire, qu'on nous impose de faire, sont extrêmement importantes et que donc on ne peut absolument pas penser ou vivre autre chose. Tout ceci est faux. J'étais artisan dans le bâtiment pendant presque 20 ans, je me suis tué à la santé et je peux vous dire que j'ai arrêté pour la musique et donc c'est faisable. Oui, je gagne beaucoup moins d'argent, alors j'ai jamais été riche, hein, mais je gagne beaucoup moins d'argent, mais en fait j'en ai pas besoin. C'est j'ai de quoi manger, j'ai une guitare, j'ai un abri. Bon, voilà. C'est l'essentiel n'est pas là, en fait. J'ai absolument pas besoin de m'acheter la dernière paire de chaussures, d'avoir la plus grosse voiture pour flatter ma masculinité. Et j'ai absolument pas besoin d'avoir le dernier appareil gadget qui va nourrir le capitalisme. Ça n'a aucune utilité.
Okay.
En revanche, passer du temps avec mes enfants, passer du temps dans la nature, passer du temps à lire de la grande philosophie, de la grande poésie, à voir de grands films, échanger avec des personnes intéressantes, passer des nuits entières à faire l'amour, toutes ces choses-là sont intéressantes et sont ce que nous sommes. Voilà. Et donc j'ai bien dit faire l'amour, hein. J'ai pas dit, je ne parlais pas d'un échange de fluide entre étrangers qui demain sera un autre, etc., pour essayer de combler un vide existentiel qui évidemment ne sera que plus profond au lendemain. Hein.
Et là, du coup, par rapport au dernier single que tu as sorti, donc Mademoiselle.
Ah, tu t'engouffres dans la.
qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors Mademoiselle, oui, c'est le dernier single. Donc j'ai sorti 3 singles d'ores et déjà pour ce disque. Donc c'est vrai que c'est un disque où, voilà, où j'ai vraiment fait patienter le public, n'est-ce pas? Ça ressemble à l'œuvre, en fait, hein. J'ai voulu vraiment. Déjà, j'avais pas posé de date précise pendant longtemps. Hein. C'est, il y a peu de temps que j'ai vraiment dit voilà, il va sortir à telle date. Et puis il y a eu Vivre et mourir chaque jour qui est sorti, ensuite Le Signal, ensuite j'ai laissé passer l'été puisque c'est une œuvre qui n'est pas du tout adaptée à cette saison, en tout cas surtout par chez nous. Voilà, j'ai laissé un petit peu passer tout ça, les vacances, et puis là on a sorti Mademoiselle. Donc Mademoiselle, c'est un titre à part dans l'album, voilà. C'est une pause au milieu du disque, voilà. Le titre est vraiment au milieu du disque. C'est vrai que le disque est très dense, très très sombre, très profond, avec des morceaux en longueur, avec des arrangements qui prennent aux tripes, etc. Je me suis dit, il faut une petite pause au milieu. Et puisque Vivre et mourir sont totalement entrelacés, évidemment que l'amour fait partie de la vie. Et évidemment que ce contre-pied de l'origine religieuse de Ars Moriendi et de ce côté charnel m'intéressait beaucoup. J'ai d'ailleurs joué à l'intérieur des clips avec tout ça, par exemple sur Vivre et mourir chaque jour, où on a cette sublime danseuse qui vient s'entremêler avec les images d'église orthodoxe, etc. Donc je trouvais ça très 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 beau. Donc Mademoiselle, c'est une espèce de... Alors le titre pour moi sonnerait vraiment folk soul, voilà, parce qu'on a quand même cette basse chaloupée très présente, avec un rythme qui pourrait paraître un peu plus moderne que les autres morceaux. D'ailleurs, on a un petit synthé un peu travaillé dessus, qui vient comme ça, un petit peu, telle une ornementation un petit peu sur le morceau. Donc, c'est une sorte de trans charnel intergalactique. Voilà, je sais pas si ça peut te... voilà, imagine, tu rencontres cette femme qui te fait ressentir, tu vois, quand t'as la poitrine comme ça qui se... t'as du mal à respirer, ça y est, c'est elle, quoi, c'est... Tout en avant, le cœur qui se met à battre, et puis c'est maintenant, là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Donc là, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de quoi que ce soit, on va s'enfermer. Et il va se passer quelque chose, c'est comme si on avait décollé direction planète charnelle, et les corps vont entrer dans une danse, dans une transe, une espèce de voyage intergalactique comme ça. On ne sait pas s'il fait jour, on ne sait pas s'il fait nuit, on ne sait plus rien, et surtout on ne veut plus rien savoir. Il n'y a plus que la vérité de la vie, il n'y a plus que la palpation, l'odeur, le ressenti, le regard, voilà, cette espèce de tension, de pulsion, entre deux personnes et rien d'autre, quoi. Voilà, perdu au milieu du cosmos, deux corps entrelacés. Il faut vraiment se plonger dedans. Après, il y a un passage au milieu du morceau qui justement va vraiment vers ça. Avec les chœurs d'Orgentoli, donc Orgentoli, c'est le seul intervenant extérieur sur le disque. Voilà, c'est une chanteuse soprano et qui a fait beaucoup de chœurs sur cet album. Parce que j'avais vraiment cette idée, comme je te disais tout à l'heure, de reflux. Voilà, un peu comme des âmes qui viendraient nous passer un message comme ça et qui tournent. Donc même au niveau du mixage, c'est très travaillé parce que ma voix est très présente, bien devant, assez grave, assez proche. Et on a ces chœurs qui tournent, au contraire, qui tournent. Alors on peut penser qu'ils tournent dans la cathédrale, ou parfois qui sont le reflux d'une falaise, ou des âmes comme ça qui nous passent des messages. Donc au contraire, ils sont très larges et très réverbérés, ces chœurs. Donc, ça crée un gros contraste avec la voix centrale, et très chaude, et très très présente, très très narrative. Donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé au mixage pour avoir tous ces effets. Donc, qui donne aussi un gros contre-pied sur certains morceaux avec le boran dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est pareil, on a ce boran très tellurique, on a quelque chose de très tribal, tellurique comme ça, qui nous prend aux tripes, et on a ce cœur qui tourne autour, et la voix qui nous passe un message au centre, et il y a des arrangements de cordes aussi somptueux, on a un violoncelle qui parfois dans le grave se distord, on peut sentir le bois qui à la limite vraiment tire sur la corde. C'est vraiment on a vraiment le crin de l'archer qui se déchire, hein. Donc voilà, c'est tout un travail, donc pour Mademoiselle, c'est une pause charnelle, au milieu du disque.
Ok, et ben du coup on va écouter Mademoiselle.
Allez.
Pour lancer du coup la sortie de ton nouvel album qui aura lieu demain sur toutes les plateformes. On se dit au revoir et puis à la prochaine, au prochain album sans doute.
J'espère bien, très bientôt.
Allez, passez une bonne soirée et à très bientôt.
L'automne est fait pour que nos corps se serrent. Nos corps se mêlent et s'entremêlent sans bruit. Mademoiselle m'a fait goûter ses délices. Mademoiselle est faite de caprices. caresse. Pêche d'or, pêche d'or, pêche d'or, baiser de velours. Baiser de velours. Le voyageur connaît cette aventure, connaît ses risques et chemins de torture. Mais la route est si belle et le péché toujours vainqueur. Face à mademoiselle aux courbes de fureur. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle m'a touché en plein cœur. En plein cœur. Aux confins du monde, jusqu'aux confins du monde. Pourquoi parler lorsque nos corps se serrent au firmament de nos chairs contre chairs. Des fruits, je m'enivre aux liqueurs de velours. Tel un poison sublime aux merveilleux atours. Élégante, enivrante, frissonnante, des tons de velours. De velours. Et ton lacet sans fin. Et te prendre aux confins du monde. Quand la beauté nous perd,